Donc, on se réjouit de se retrouver ou de vous trouver autour d'un thème qui nous tient beaucoup à cœur, à beaucoup d'entre nous. On a noté comme thème de cette rencontre le peuple sénoufo, une ère culturelle charnière entre le passé et le présent. Pourquoi ce débat? C'est pas simplement un débat circonstanciel, parce que bon, on prendrait les Sénoufos à la suite d'autres. C'est parce que effectivement, autour de ce que nous pouvons en dire, ce que nous espérons en dire et que nous espérons que vous allez entendre, c'est qu'il y a des enjeux profonds. Il y a une polarisation, notamment dans l'actualité générale que nous vivons, autour des trois grandes religions qu'on appelle les religions du livre, et les enjeux africains semblent, disons, en quelque sorte écrasés par ces grandes compétitions. Et le risque, c'est qu'on oublie que les peuples africains ont construit leur culture propre au fil de l'histoire, et cette culture est encore vivante. Et on n'en parle jamais. Cette culture fait encore vivre beaucoup d'hommes, de femmes, dans beaucoup de terroirs africains. Et effectivement, elle est attaquée par les événements, par les guerres, par tout ce qui arrive dans une histoire qui est difficile. Et pourtant, cette culture ou ces cultures sont porteuses d'un humanisme dont nous sommes un certain nombre à penser qu'il a droit de cité dans le monde où nous vivons, et plus que ça, qu'il apporte aussi quelque chose que, disons, les autres n'ont pas. Chacun apporte ce qu'il a de spécifique. Et la culture des peuples africains est tout à fait spécifique et mérite d'être connue bien au-delà. Alors, disons, comment peut-on rejoindre la présence des cultures africaines aujourd'hui? Dans leur évolution et puis dans leur ouverture. Un certain nombre d'entre vous, je pense, ce matin, ont vu le film que nous avons présenté sur les balafons et qui est une sorte disons, d'entrée très stimulante et très fidèle aussi dans un univers vécu par les hommes, dans une façon de sentir le monde. Alors c'est autour de ça aujourd'hui qu'on va s'entretenir et nous entretenir les uns avec les autres. Pourquoi d'abord le peuple sénoufo? Parce que le peuple sénoufo est un peuple qui est réparti par le hasard et la cruauté du découpage colonial entre trois États aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais c'est un seul peuple au départ. Et ce peuple-là, donc, ainsi écartelé, maintient cependant sa culture, ses valeurs. Et alors, nous sommes heureux aussi aujourd'hui de voir que, disons, les gens qui représentent ces différentes parties du monde sénoufo, bien, sont présents ici aussi à cette table, bah, ou dans l'assistance. Sénoufo de Côte d'Ivoire, mon ami Soro Solo. Sénoufo du Kénédougou, donc Ntio. Marie Lorillard, qui a beaucoup vécu à la fois en Côte d'Ivoire, plus encore en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali. Et puis dans l'assistance, je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un Sénoufo du Burkina Faso, qui est là. Donc on parle sous contrôle et en même temps porté par l'authenticité de ceux qui participent à ce débat. Ce peuple Sénoufo est remarquable d'abord par sa. Remarquable et vulnérable par sa grande discrétion. C'est un peuple dont on parle peu, disons, et pourtant c'est un peuple important, qui vient de loin, qui a manifesté, qui manifeste encore des créativités assez exceptionnelles. Les spécialistes de l'art africain considèrent, à juste titre, que l'art des sculpteurs sénoufos fait partie des grands maîtres. Et il y a d'ailleurs actuellement au Quai Branly une exposition sur les sculptures de Côte d'Ivoire et l'art sénoufo y a sa place. Mais disons, comprendre l'art sénoufo et les sculptures de ce pays, ça n'a vraiment de sens que si on les rapporte au vécu global de ces gens. Et peut-être on pourra essayer de cultiver la chance qu'on a aujourd'hui à plusieurs voix, bah, de situer l'art, un art africain, dans sa société, dans sa culture. Deuxième dimension de l'intérêt de se pencher sur le peuple Sénoufo, c'est un génie musical assez exceptionnel que vous avez pu, ceux qui ont vu le film ce matin, entendre à travers ces concerts de balafon là. Mais le balafon, instrument emblématique, n'est pas, disons, un élément surajouté. Il est partie prenante, partie constitutive d'une culture. Le film déjà le montrait, mais on va en reparler encore, parce que vous avez ici des gens, y compris, qui savent danser au balafon, qui savent à quoi le balafon sert. Et peut-être aussi que ça nous interpelle sur la manière que nous avons, nous, de vivre et de recevoir l'art dans nos sociétés occidentales, aux prises avec, disons, l'impéritie d'une technologie qui chasse un peu l'humain de toute une série de productions, au bénéfice souvent du commerce et des transactions. Donc, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, alors, qui rend ce peuple particulièrement attachant, c'est que c'est un peuple enraciné, un peuple où on a le sens de la communauté et véritablement qui a su créer des institutions originales pour gérer et défendre le lien communautaire, en particulier à travers le système d'éducation, qui est un système d'éducation absolument fabuleux, initiation, qu'on appelle en pays Sénoufo, dans une grande partie du pays Sénoufo, le poro. Mais là où il n'y a pas de poro, il y a, disons, le même esprit dans l'éducation. Et alors, donc c'est tout ça, si vous voulez, qui peut constituer les composantes d'un projet humain particulièrement riche et intéressant et dont on a des leçons à prendre, y compris des leçons d'humanisme. Ceux qui ont vu le film ce matin, d'ailleurs, peut-être ont pu remarquer qu'à travers les propos des jeunes et des vieux, il y avait toute une sagesse profonde qui coulait au fil des propos quotidiens. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait précieux. Alors, qui sommes-nous pour vous en parler? Nous sommes quatre. Il y a, disons, deux noirs, deux blancs. Mais on a tous quelque chose en commun, qui peut peut-être, qui nous rapproche, hein, parce que c'est une expérience qu'on a faite, chacun à partir de l'endroit d'où il provenait. Nous sommes des hommes et une femme qui ont effectué ce qu'on pourrait appeler la traversée du miroir. On est passé, disons, d'un état de vécu, de civilisation et de société dans une autre, et en se mettant à l'écoute, alors, en s'organisant pour comprendre et saisir de l'intérieur et s'enrichir. Et je crois que c'est un message qui est tout à fait important dans le monde où nous vivons, où effectivement le problème de l'autre est quelque chose de tout à fait pesant dans la société où nous sommes. Comment peut-on comprendre l'autre, respecter l'autre, s'enrichir de l'autre, tout en faisant que l'un s'enrichisse aussi de l'autre et enrichisse l'autre? Alors c'est un peu tout ça que nous avons vécu, tous les quatre que nous sommes, chacun à notre manière. Je vous donne en deux mots notre fiche d'identité, et puis bon, chacun après s'exprimera. Ben, bon, je commence par Marie Lauriard, qui est à ma gauche. Marie est partie en pays Sénoufo, jeune anthropologue, et elle est entrée complètement dans la vie de village du nord de Côte d'Ivoire, et puis ensuite, disons aussi, dans des villages comparables du Mali. Mais comme font trop peu de gens, elle s'est complètement baignée dans la langue Sénoufo, donc capable de comprendre la langue et de partager, et notamment avec les femmes. Et alors, Marie, moi, je l'interrogerai, nous nous interrogeons avec elle sur, disons, quelque chose qui nous paraît un peu comme une sorte de mystère paradoxal. C'est un pays où, effectivement, une culture où la joie éclate et en même temps, disons, la souffrance est présente. Et il y a une sorte de lutte entre la joie et la souffrance. Et ce pays, à travers cette culture, à travers les siècles, a trouvé, disons, les moyens, bah, de, disons, d'exploiter la richesse humaine qu'il pouvait y avoir dans le passage de l'une à l'autre. Bah, Marie a fait sa thèse, d'ailleurs, sur les souffrances quotidiennes dans le pays Sénoufo, et en particulier avec un vécu et des témoignages de femmes vraiment peu ordinaires. Donc voilà, disons, premier passage première traversée du miroir. Bah, Soro Solo, mon ami qui est là, lui, alors il vient du côté noir vers le côté blanc. Hein. Il a traversé, d'ailleurs on avait fait ici même, il y a 2 ou 3 ans, un petit exercice tous les deux à cette même table, où je lui avais dit, raconte-moi ton premier blanc et moi je te raconterai mon premier nègre. Hein. Et effectivement, on revient un peu à ça hein, aujourd'hui. Mais Solo est resté Sénoufo jusqu'au bout des ongles. Pas tout en étant bon, un animateur d'importance dans nos circuits médiatiques, ben, mais porteur d'un message. Et justement, sa présence à Africajar est exactement centrée sur ces rites de passage. Là. Comment peut-on transmettre d'un monde à l'autre à travers la musique, à travers la culture, à travers la littérature, etc. Donc là, je crois qu'il y a aussi témoignage à entendre, dialogue à construire et leçons à tirer. Quant à Ntio Koulibaly, alors mon ami Ntio, lui, il vient du Kénédougou, c'est-à-dire le nord du pays Sénoufo, autour de Sikasso. Et moi, j'ai vécu quelques années dans ce pays, sans d'ailleurs pouvoir m'en déprendre, et au contraire, attaché à ne pas m'en déprendre. Mais Ntio est un fils du village, qui a été éduqué au village, qui s'est complètement imbibé de la culture de son village. Puis après, qui a traversé le miroir aussi, bon, comme Solo, lui, il est passé du côté noir au côté blanc, hein, mais tout en gardant totalement ses attaches avec la terre de provenance. Et quand je dis la terre, c'est quelque chose de particulièrement important pour le monde Sénoufo, parce que la culture Sénoufo est une culture enracinée, hein, enracinée au sens biologique, j'allais presque dire botanique. Hein, et les arbres ne prennent pas racine dans le ciel. Les arbres prennent racine dans la terre. Et là, les paysans Sénoufo ont vraiment eu un sens de la terre que moi j'ai retrouvé aussi chez mes ancêtres paysans, pas bretons. Je termine pour ma petite carte d'identité à moi. Pas bon, je suis fils de paysans bretons, enfin de la terre rurale bretonne. J'étais élevé par une grand-mère paysanne. Puis après, disons, à travers un assez long périple, je me suis retrouvé en Afrique, j'ai été l'élève de Senghor pendant tout un temps, et je suis parti en Afrique avant la fin de la colonisation, avec la volonté d'être un des artisans de cette décolonisation. Et où ai-je fait mes premières armes pour découvrir ce monde nouveau, faire ma traversée du miroir en pays Sénoufo? J'ai vécu 3 ans, j'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque, c'était merveilleux. Mais le monde était aussi, disons, passionnant et dur. Et là, disons, je me suis mis à l'écoute de mes maîtres d'initiation, Sénoufo. Et il y a, disons, un vieux qui est dans un village pas trop loin du sien, là, de Ntio, qui s'appelait presque comme lui, s'appelait Tio Zanga Duoté, qui était un maître d'initiation, très très connu, très réputé, maître des cultures. Et il me dit, n'oublie jamais qu'aujourd'hui, et le fils d'hier et le père de demain. Je pense que là, il y a un traité de philosophie qui est très, très profond. Et donc, voilà, moi, j'étais un peu élevé à tout ça, dans tout ça. J'ai raconté aussi mon passage, disons, d'un univers à l'autre dans mes mémoires bretonnes. Enfin, tout ça, on pourra en parler par la suite et après. Donc, voilà, notre point de départ. Alors, disons, je vais pas parler plus longtemps maintenant. Enfin, on reviendra dans le dialogue. On va faire un dialogue un peu croisé. On n'est pas dans un colloque, hein. On est dans des échanges humains. Hein. Donc, simplement un petit mot pour fixer l'origine du peuple Sénoufo. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, géographiquement, il est situé entre ces 3 pays. Et il a ceci de particulier, c'est que c'est un peuple qui s'est construit dans l'histoire et dans une histoire qui n'est pas si longue à portée de vue que ça. À partir du 15e, 16e siècle, des gens venus d'ailleurs, venus de l'Est probablement, et un peu du Nord aussi, ben, se sont fixés dans ces terroirs-là, et puis ont rencontré les forestiers du Sud, et ont pris, disons, dans ces divers environnements, des traits culturels qu'ils ont vraiment enracinés dans leur terre. Et à partir de là, la société Senufo est une société ouverte, une société qui a continué de se construire constamment. Elle est en pleine genèse culturelle encore aujourd'hui. Et ça, c'est un trait tout à fait fondamental et capital. C'est peut-être aussi une leçon de vivre. Ça veut dire que toutes les sociétés ont besoin de se reconstruire et de se construire au fil de l'histoire. Alors que très souvent, on dit oh, les sociétés africaines, c'est des traditionalistes, ils sont fixés sur le passé, ils bougent pas. Eh bien, c'est une vision complètement erronée. Et y compris, d'ailleurs, enfin, moi je peux en parler parce que les vieux avec qui je me suis beaucoup entretenu m'ont donné des leçons de changement, de mutation, de développement, mais à condition que ça reste dans l'intérêt et dans la fidélité au peuple. Là, il y a beaucoup à prendre aussi. Voilà. Donc, alors, peut-être... on pourrait, dans l'ordre que j'ai pris tout à l'heure, peut-être Marie, tu pourrais commencer à raconter un petit peu ton histoire, ton passage, disons, à travers le miroir aussi, et puis ce que tu as envie de dire, et puis d'échanger avec les autres.
Bonjour à tous. Déjà, j'ai envie de vous dire merci d'être là pour partager cette parole avec nous. Si vous arriviez comme ça dans une concession, c'est nous faux, peut-être qu'on vous dirait Fotamn, bonne arrivée. C'est ça que j'ai envie de vous dire, pour qu'on soit un peu réunis là sous un arbre qui pourrait être un arbre à palabre, ou ce qu'il en reste, parce que dans les villages, il n'y en a plus souvent, mais il y a un lieu central où la parole circule, et comme m'avait dit un vieux un jour, la parole, c'est déjà le bienfait. Pouvoir échanger des paroles, c'est une bénédiction. Donc c'est la première chose, j'ai envie de vous dire merci. Moi, ce qui m'a surtout frappée, en rencontrant les Senufo, déjà c'était une rencontre de vie, au-delà d'une rencontre d'études professionnelles ou anthropologiques, c'est d'abord cette rencontre humaine qui était formidable et peut-être en premier lieu ce rapport singulier à la Terre, qui moi m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé extrêmement fort, et qui m'a donné envie vraiment d'aller plus loin. Et là, je me suis aperçue que forcément, il fallait peut-être un peu parler la langue, notamment pour rencontrer les femmes, puisque peu de femmes parlaient français, finalement, là où j'étais. Moi, j'étais dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans un petit village qui s'appelle Fonica, pour les locuteurs de la langue, donc la résidence du forgeron. Un village assez connu pour son attachement au poro, qui est un village assez fier de ses traditions, pas du tout pénétré par les cultures occidentales, ou très peu, et paradoxalement au cœur de la modernité, puisque enclavé dans une plantation de canne à sucre des plus, je dirais, ultra-modernes, et pas forcément très juste. Donc voilà un peu le contexte de mon étude. Donc c'est ce rapport à la terre peut-être qui m'a marqué au début, mais par la suite, c'est ce rapport singulier à la souffrance, et notamment ces proverbes que j'entendais le lendemain des funérailles, quand on dit « mille fo frogone », c'est-à-dire « je vous salue pour la souffrance », on disait ça à la famille des gens qui étaient endeuillés. Pour moi, saluer, ça voulait dire « je vous remercie pour la souffrance ». Alors, est-ce qu'il est possible de remercier quelqu'un pour la souffrance? J'étais quand même blanche, naïve, hein, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, donc j'avais quand même beaucoup de bons sentiments et beaucoup de choses, à mon avis, que je ne comprenais pas. Et donc j'ai mis un temps d'abord à questionner cette notion de souffrance, notamment dans la langue Nyarafolo, c'est frogo, mais je pense pour des locuteurs ici, ça, c'est un autre terme. Et ça m'a marqué, notamment par la suite, quand il y a eu le conflit en Côte d'Ivoire, donc bien après, quand j'ai fait ma thèse d'ethno, où là je passais les barrages par le Burkina Faso. Et donc quand j'arrivais, j'avais passé les frontières et qu'il y avait la rébellion, etc. Et là, les vieux me disaient en m'accueillant « Mais Marie, frogo ki yarge ». C'est-à-dire que la souffrance porte conseil. Et j'étais toujours un peu interloquée, donc j'ai interrogé cette notion. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. C'est cette notion que la souffrance est dans la vie. C'est un donné, en fait, de la vie quotidienne. C'est pas quelque chose qui est tabou, c'est quelque chose qu'on peut dire. Et donc pour moi, les Senufo, au-delà d'être une société liée à la terre, c'est aussi une société qui, paradoxalement, offre un espace de parole sur la souffrance, qui permet, par exemple, à une femme de dire le deuil qu'elle a à faire d'un enfant, le deuil qu'elle a à traverser, qui permet à une femme aussi de dire que sa belle-mère l'emmerde au plus haut point. Elle peut le dire en chantant. Donc pour moi, c'est dire qu'à la fois, il y a cette société où la Terre, est... on entretient un lien singulier avec la Terre, mais on entretient aussi un lien singulier à la parole. Un jour, le chef là, de mon village d'adoption m'avait dit que pour lui, c'était le pays de la parole. C'est au sens où la parole a cette valeur fondamentale. D'ailleurs, cette parole, on apprend à la maîtriser. Le poro, à mon avis, l'initiation des jeunes hommes dans le bois sacré n'est pas étranger à cette notion de maîtrise de la parole. Et on dit bien, c'est de la souffrance que vient la connaissance de la parole. C'est-à-dire qu'il y a tout un apprentissage de la douleur inhérente à la vie humaine qui passe par la souffrance, mais qui n'est pas, j'insiste, à mon avis, c'est très important, c'est pas un dolorisme, c'est pas souffrir pour souffrir, c'est pas en faire des caisses avec la souffrance, être là, c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment quand on assiste à ces paroles féminines sur la souffrance, quand on entend ces contes des vieux sur l'origine de la souffrance, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas d'effet pathétique quand on parle de cette souffrance, mais on a le droit de la dire et de la transfigurer, peut-être par le chant, peut-être finalement par la beauté. Et c'est en ça que pour moi, les femmes, c'est nous faux, et les hommes d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi des chants qui sont extraordinaires, les femmes, c'est nous faux, ne sont pas seulement productrices de chants, c'est nous faux, je dirais qu'elles sont productrices d'œuvres d'art qui touchent à l'universel, par la beauté de ce qu'elles soulèvent, par le fait qu'elles luttent contre la mélancolie, et qu'elles nous font accéder à quelque chose de très fort, de très humain, finalement, qui est notre condition d'homme précaire. C'est ça, moi, qui m'a vraiment passionnée, à leur côté. Mais là encore, parfois, la souffrance était exprimée dans la joie. C'est ce paradoxe dont Roland a parlé, à mon avis, qui est très intéressant. Jusqu'aux cérémonies du poro, où là, les femmes arrivent et chantent quand les hommes sortent du bois sacré, et elles chantent « est-ce vrai, mon fils est sorti du bois ?» Elles le chantent avec de la joie, finalement. Elles ne sont pas sombres pour exprimer l'épreuve. Donc pour moi, c'était sur une forme de sagesse que j'ai découvert pas à pas. Il reste encore beaucoup à découvrir. Et cette sagesse, elle est aussi liée à la conscience de la mort, dans une société où, évidemment, les gens y sont confrontés peut-être plus qu'ici, ou en tout cas, ils sont plus préparés. Société dans laquelle c'est beaucoup moins tabou, donc ça c'est quelque chose de très fort. Je finirai sur une parole, c'est nouveau, parce que je trouve que la langue c'est nouveau est magnifique, elle a des tons, il faut savoir la dire, c'est quasiment une langue musicale. Et voilà, cette sagesse pour moi est transparée bien dans le proverbe Nyarafolo Obumba Ache, c'est-à-dire on ne peut pas connaître demain. Et du fait de cette méconnaissance de demain, on est dans la conscience de la mort, et donc l'instant présent aussi une acuité, une force qu'on vit et qui est magnifique. Voilà, j'ai laissé la parole aux autres, j'ai peut-être beaucoup parlé. Hein.
Merci Marie. Solo, tu veux raconter ton passage aussi à toi et puis surtout ta racine, quoi. Voilà.
Lui, il marche. Oui, celui-là, il marche. Ben, Roland, tu l'as dit... Je crois que la dernière fois où on s'est retrouvé, si j'avais déjà raconté au public comment de ma tribu Senoufo, d'un petit village du nord de la Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé confronté à la culture française et à la culture arabe finalement. Parce que mon père a quitté son petit village pour s'installer à la ville qui était juste à 18 kilomètres. Mais dans les années 20, dans les années 30, faire 20 kilomètres de son village, c'était déjà la grande aventure. Et l'étranger, c'était déjà celui qui vient du canton d'après. Dans le même territoire culturel, l'étranger, c'était le village d'à côté. Bref, et mon père va se convertir à l'islam pour pouvoir intégrer le milieu du business commercial. Et donc, nous allons avoir une culture musulmane à la maison. Et il va finir par nous inscrire ses enfants à l'école catholique. Et les 6 premières années de ma vie, ben, j'ai appris le catéchisme. Et Dieu était un vieil homme blanc, avec une barbe aussi blanche que celle de Thio, et avec des cheveux très longs, et il était sage. Et mon village, il est à 18 kilomètres. Et quand nous on est nés, les vélos étaient déjà plus courants dans mon peuple. En 2 heures de vélo, j'étais déjà au village. Et je retrouve mes tontons, mes tantes qui sont restés au village, qui ne parlent que le sénofo, qui ne parlent même pas le djoula, la langue de communication de tout l'Ouest africain, encore moins le français. Et eux, ils disent, le fils est né à la ville, il est venu au village, il ne faut pas qu'on le perde totalement. Ils vont donc m'initier, enfin m'enseigner les rudiments de la culture sénofo. Et leur croyance est liée à la terre. Et ils ont là une croyance d'un être supérieur qui gère tous les hommes que nous sommes, les blancs, les rouges, les jaunes, les verts, les bleus, les noirs. Cet être supérieur, d'ailleurs, dans mon sénofo de Korogo, cet être que vous appelez Dieu, ou que d'autres appellent Allah, ou God, si on traduit littéralement son nom du sénofo au français, c'est la femme du ciel. Dieu, c'est Kolotcholo, la femme du ciel. Et ce Kolotcholo, il se manifeste à travers tous les éléments de la nature. Le feu, l'eau, l'air, le bois, la nature. Je pense que peut-être pour ça qu'on a appelé ces croyances-là animisme, parce que les éléments de la nature sont animés de l'esprit divin, de ce Dieu qui nous a créés et qui dirige tout ce que nous faisons. Bref, et moi je crois en mes tontons que j'aime d'un amour sans borne, mais qui sont restés au village, mes tantes. Donc ce qu'ils m'enseignent me convainc plus facilement que ce que mon père a emprunté à l'islam et ce que le prêtre catholique m'a enseigné plutôt à coups de fouet. Et le fouet, ce n'est pas du tout agréable. Je me rappellerai toujours de la belle claque que j'ai prise à l'église de Korogo. J'avais à peine 8 ans que le père Hilaire m'a foutu à la gueule, alors qu'il m'a dit « Dieu est amour, mon fils. » Blâche ! Bon. Je ne m'étalerai pas sur ces traumatismes-là le plus longtemps possible, mais parler plutôt. Voilà comment mes racines, ce sénofo, m'ont amené donc tout au long de ma vie à finalement faire la traversée du miroir, passer du côté noir au côté blanc par la culture que j'ai apprise à l'école, puis finalement au lycée, et ensuite à l'école de journalisme, et puis venir étudier en France. Et dans les villages sénofo, Marie vous l'a dit, Roland pareil, l'enseignement est vraiment lié, on t'enseigne d'abord toutes les valeurs humanistes. Et nos parents restent au village, quand on doit voyager, déjà quand on allait à la ville, c'est comme si on les quittait pour l'aventure. Et donc on a obligation de faire le tour du village, et tous les chefs de famille, tous les anciens, quand on arrive, on fait le tour pour dire bonjour. Je suis arrivé du village, je suis donc venu m'enquérir de votre santé. Et le jour où on quitte, après son séjour, on retourne pour dire au revoir, je viens prendre vos bénédictions pour reprendre l'aventure de la ville. Et invariablement, chaque ancien, tiens mon fils, tu retournes à la ville. Mais ces pays que nous ne connaîtrons jamais, ne l'oublie pas, quand tu es sorti du sein de ta mère, tu étais nu et tu es venu par les bras des êtres humains. Le jour où tu as fini ton voyage sur cette terre, pour aller au-delà, dans l'au-delà, rejoindre nos ancêtres, tu seras encore nu et tu partiras dans les bras des hommes. Donc, où que tu seras, je ne sais pas où tu seras, chez les jaunes, chez les blancs, chez les rouges. En réalité, il n'existe même pas de couleur de peau. Mais où que tu seras, ne l'oublie pas, que l'être humain soit au centre de tes préoccupations. Si tu le respectes, il te respectera. Si tu l'aimes, il t'aimera. Si tu es intègre avec lui, il sera intègre avec toi. Si tu es généreux, bref, il te cite tout le chapelet des qualités dont tu vas profiter si tu te préoccupes de l'humain. Voilà le premier enseignement qu'il te donnait. Deuxième enseignement, je vous ai dit, on dit toujours l'étranger, c'est le village d'à côté. Et chez nous, l'étranger, c'est toujours le village de ton oncle. Puisque généralement, ta mère quittait un village pour venir se marier dans un autre village. Et tes oncles maternels sont restés dans leur village. Donc c'est un village étranger. Le jour où tu vas dans le village de ton oncle, si tu vois les gens marcher sur la tête, mets tes jambes en l'air. C'est-à-dire, là où tu seras au monde, il faut t'adapter aux manières de vivre, il faut respecter les manières de vivre de là où tu es. Et c'est comme ça qu'ils vont t'intégrer dans leur société, et tu pourras tout partager avec eux. Et une fois que tu as intégré ces deux enseignements, en règle générale, tu dois pouvoir faire le tour du monde sans grande difficulté. J'ai bâti qu'il n'y en aura pas, et il y en aura. Et donc, finalement, quand moi j'ai fait ma traversée du miroir, en arrivant en France, le premier constat, c'est que j'ai remarqué que tous les paysans du monde étaient exactement les mêmes, avaient les mêmes valeurs fondamentales. Je descends dans le sud avec ma copine de l'époque, et on est transpiré. Sous l'été, il faisait chaud. Et dans un village, il y a juste une boulangerie. Et la famille vit là-dedans, vit dans l'arrière-cour. Et c'est quand vous passez la porte, ça fait ah, dit, il y a un client. Et la dame vient, elle nous voit. Oh, il doit avoir chaud, ces petits jeunes. Elle retourne flashback derrière la maison. Elle revient avec deux verres de menthe à l'eau. Elle nous les tend. Et nous, on commande du croissant, du pain, du fromage. Et quand on a fini de manger, qu'on a voulu payer, on regarde, on dit, ouh, je crois qu'elle a oublié quelque chose parce qu'on ne voit pas marquer les menthes à l'eau. Et puis on la rappelle, madame, on pense que vous avez oublié. Ah, mais non! Mais attends, ça ne fait pas ça. La menthe à l'eau, c'est offert. Et moi, ça m'a renvoyé à la calebasse d'eau fraîche de mon pays, ce nous faut, qu'on offre à tout voyageur qui traverse le village, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. J'ai dit, ah, oh, je retrouve quelque chose de mon village. Donc, ça m'a réconcilié avec ce monde blanc que le père Hilaire m'avait fait détester à cause de ses coups de fouet, à cause des notions de Dieu qu'il voulait absolument m'imposer obligatoirement au détriment de ce que mes oncles me disaient au village. Voilà. Voilà un petit aspect pour dire ma traversée du miroir, ça m'a le fait d'intégrer les enseignements que les parents m'ont donnés et de comprendre que parfois nous avons des différences, mais si on gratte bien, ce que nous avons en commun est parfois nettement plus important que ce qui nous oppose comme différence. Je voudrais m'arrêter là pour ma traversée du miroir. On pourra développer un peu plus tard et passer la parole à Thio.
Je n'ai rien à appuyer, c'est bon, on m'entend. Ben, écoutez, bonjour à tous et merci de me donner la parole dans ce cercle d'excellence qui est le vôtre pour parler de ma culture. Mais auparavant, je voulais vraiment adresser un vif remerciement à tous les bénévoles de Afrique Kajar, à Madame de Corsin, Agnès de Corsin, qui a été la première voix que j'ai entendue et à qui j'ai causé peut-être quelques tracas en lui envoyant ma photo pour pouvoir établir ce badge. Ouais, voilà. Hein? C'était un peu compliqué. Je ne suis pas très informaticien, mais enfin, voilà. Les choses ont fini par bien s'arranger. Alors, à la suite de tout ce qui vient d'être dit, moi, mon propos ne va pas. J'ai bien entendu le passage du miroir, bon, et y compris les péripéties rapportées par mon frère Solo. Mon propos va plutôt concerner dans cette période perturbée que nous traversons. Et sachant combien l'initiation est très importante en pays ce nous faut, ce qui m'obsède, c'est que cette culture, quand on a l'amour de l'homme chevillé au corps à ce point-là, de l'être humain perfectible, enfin bon, qu'on a envie de parfaire, je souhaiterais qu'il prenne toute sa place. Je souhaiterais qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin, mais qu'il prenne sa place dans le débat, y compris dans la localisation où le ce nous faut est implanté actuellement. On en a besoin. Comment je vais dire, il est ouvert au syncrétisme, à l'islam et au christianisme. Eh bien, il est peut-être temps que les bienfaits de l'initiation, il ne s'agit pas de tout externaliser, que les bienfaits de l'initiation sortent et viennent constituer un troisième pôle de réflexion, de manière à ce que, comment je vais dire, à défaut de trouver le chemin lumineux, mais qu'on ait un apaisement dans les perturbations que nous traversons actuellement à travers le monde. Et la dernière en date, c'est quand même cette région si paisible du sud Mali qui vient d'être un peu perturbée par une incursion de personnes qui se disent d'une religion, mais sur lequel fait on a beaucoup de doutes. Alors, très rapidement, je voulais vous dire quelques points de repère de cette culture telle que je l'ai ressentie, et en même temps vous dire comment j'ai ressenti, l'intituler, le peuple se nous faut une ère culturelle africaine charnière entre le passé et le présent. C'est tel que ça me cause, venu de l'intérieur, parce que j'ai l'impression que j'ai jamais quitté cette culture, jamais, même quand dans la région parisienne, quand je vis là, j'ai toujours l'impression de respecter à la fois le code de vie tel que dans le pays d'accueil, et puis d'avoir toujours cette réaction, ce nouveau en moi. Bon, ben voilà. Donc, il n'y a pas de séparation entre les deux. Et je voulais également, pour finir de me présenter sommairement, de vous dire dans quel contexte je souhaiterais intervenir dans ce débat. C'est que mon prénom ne peut être porté que par le cinquième garçon né dans une fratrie. Le cinquième garçon. Ça n'est pas une vanité du tout. C'est simplement dans un contexte de l'époque où la mortalité est assez importante, c'est une manière animiste de dire aux divinités, écoutez, est-ce que celui-là, vous ne pourriez pas l'épargner ? Voilà, c'est un ex-voto quelque part. Le prénom n'est pas rare par hasard, c'est comme ça, dans les lignages. On pourra en parler, je pourrais vous citer les précédents, mais le Ntio, ça veut dire, c'est le prénom que peut porter. Il n'est pas obligé de le porter. On peut être Ntio sans le savoir, d'ailleurs. Voilà, ça, c'était pour situer un peu les choses. La deuxième chose que je voulais dire, pour bien ponctuer ce que je suis en train de dire, on n'a pas pu voir tous les films, mais la manière dont on célèbre les funérailles en pays Senoufo, c'est grand, en gros, le Senoufo, dès l'instant qu'il naît, et qu'il accède à l'âge adulte, il travaille toute sa vie pour sa belle mort, en fait, pour préparer sa mort. Mais pourquoi ? C'est pour accéder au rang d'ancêtre. Hein. Parce que n'est pas ancêtre qui veut, n'est pas à la porte du vestibule qu'il veut. Qui veut, il faut avoir une vie sociale suffisamment accomplie pour entrer dans ce panthéon-là. Donc, comment je vais dire ? À partir du moment où on a cette trajectoire, eh bien, ce qui se passe, c'est que on peut avoir un décès, malheureusement. Eh bien, l'enterrement ne se fera pas. Pourquoi ? Parce que le jour n'est pas favorable. Il est considéré comme pas favorable. Eh bien, on attendra 2, 3, voire 4 jours. Parce que vous avez, à côté du calendrier normal, qui s'appelle lundi, mardi, mercredi, etc., vous avez le lundi favorable. Ensuite, le mardi, pas dans le sens mardi. De lundi, on passe à dimanche, une semaine après. De dimanche, on passe à samedi, de samedi à vendredi, de vendredi à jeudi, jeudi. Vous voyez, un compte à l'envers qui fait que le cycle ne s'accomplit qu'au bout de 49 jours. Et ce calendrier-là, vous ne le trouverez nulle part. Il est transmis dans l'oralité. Il est transmis également, bon, ben voilà, comment je vais dire, le Kapolondougou, en tout cas, d'où je viens, qui est un des terroirs du pays Senoufo, est complètement orienté sur ces choses-là. De même, bon, ben, y a certains baptêmes qu'on ne fera pas tel jour, y a certaines choses, certaines circoncisions, etc., etc. Voilà, je voulais vous dire ces éléments-là. Pour que vous me compreniez complètement, je voulais également vous parler de la terre. La terre, c'est un sanctuaire pour le Senoufo. Ses os vont y rester à la fin de sa vie. Cette terre lui donne à manger. Eh bien, cette terre, à l'intérieur de ma famille, ne se divise pas. Elle se transmet de génération en génération, de patriarche en patriarche qui l'administre. Et puis alors, quand on se sent à l'étroit, c'est vrai que moi, dans ma petite famille, nous sommes à peu près 300. Famille agricole, petite famille, hein, parce qu'il y a mieux, enfin, il y a plus, voilà. Donc, évidemment, si on devait partager la terre de cette façon-là, ben, on n'en sortirait pas, quoi. Donc, la terre ne se divise pas. Et originellement, dans tout cet espace, logiquement, on la demande, on vous la prête, vous la travaillez, vous vous en nourrissez. Vous ne la vendez pas. Et pour le Senoufo, la terre ne ment pas. Autre chose pour aller dans ce même sens, vous savez que il y a un village dans la région de Sikasso d'où je viens qui s'appelle Bouara. Eh bien, Bouara est considéré comme l'occupant originel des terres de Sikasso. Et Bouara a autorisé tous les villages à s'installer. Bon, ben, dans mon Kapolondougou à moi, qui est une subdivision de Sikasso, ben, il y a déjà 39 villages. Eh ben, quand il y a un conflit de terre, ce qui se passe, eh ben, les pouvoirs publics de la République, bon, les tribunaux s'en saisissent, etc. Mais il n'est pas rare qu'on appelle le chef de terre de Bouara et le chef de village de Bouara pour les entendre à titre d'experts. Parce que quelque part, cette façon de gérer les choses, cette philosophie de la vie, elle avait son importance dans... elle a toujours son importance d'ailleurs, mais comme toujours, il arrive qu'on soit en but à des difficultés sans savoir comment les dépasser. Eh ben, je pense que dans la recherche de la tranquillité de vie dans cette partie du monde, nous sommes devant une espèce de porte qu'il nous faudra essayer d'ouvrir. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut y renoncer. La dernière chose que je voulais dire, mais ça c'est parce que je vous dis, je voulais à tout prix vous parler de la culture, ce nouveau de l'intérieur, c'est cette, parenté, fraternité obligatoire qu'on appelle le Chimpuro. La première chanson que Neba Solo a chantée, que j'ai eu le plaisir de danser, mais vraiment ça sortait du cœur, c'est cette chanson s'appelle Chimpuro Nanuro. C'est-à-dire que logiquement, tout homme devrait se ceindre les reins avec cette fraternité-là. Ça n'est pas une liberté, parce qu'on n'a pas de sécu, on n'a rien d'autre. On est obligatoirement solidaire de l'autre. Donc, il faut s'en ceindre, il n'y a pas à tergiverser. Sinon, la vie en communauté n'est pas possible. Et alors, qui ceux qui, à ce moment-là, veillent sur cette... fraternité au sein. Alors, dans le détail, sachez que quand vous épousez une femme, ben, toute sa famille entre quelque part dans votre fraternité. Et comme on est assez souvent polygame dans ces pays d'agriculture, ben, vous voyez un peu comment ça peut s'étendre très facilement. Donc, quelque part, l'individu est toujours l'ambassadeur, pas de lui, mais d'une communauté. On ne peut pas aller dans le village voisin, commettre n'importe quoi, sans jeter l'opprobre sur plein de gens à la fois. Et qui c'est qui tient les règles du jeu de ce Chimpurore ? Eh ben, c'est le patriarche, mais sur le conseil des femmes. De quelle manière ? Eh ben, pour simplifier, la femme qui doit être consultée ou les femmes qui doivent être consultées dans la communauté vous diront telle relation est impropre. Vous ne pouvez pas épouser un tel, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose avec un tel parce qu'il y a déjà tel et tel croisement, etc. Enfin, pardonnez-moi, telle ou telle alliance qui se sont déjà tenues. Donc, vous ne pourrez pas aller dans ce sens-là. Et le chef, le patriarche, est bien obligé d'obtempérer, quitte à consulter d'autres. Pardonnez-moi, je m'emballe. Voilà, c'est donc terre, sanctuaire, Chimpuro obligatoire, une terre qui ne se divise pas. Et l'enfant, dès qu'il naît, il est tout de suite inscrit dans la cosmogonie. Ntio porte le cinquième enfant. Voilà les quelques points sur lesquels je me suis un petit peu appesanti. Pour terminer, mon cher Roland, je voulais simplement dire un cri du cœur en disant la chose suivante. Je regrette que les voies entre les villages ne soient pas entretenues. C'est des pistes qui mènent de village en village. Ça n'est pas un hasard, parce que le paysan, tout à son champ, oublie d'entretenir les voies de communication. Les pouvoirs publics n'en ont pas toujours les moyens, mais dans les villages, on les a. Je fais un peu de la politique en marge, mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Je voulais simplement dire la chose suivante. Quand on dit en pays ce nous faut, je suis le plus beau, c'est qu'on est au fond de la case de sa maman. Une fois qu'on en sort, on aura à qui se frotter. Et forcément, si les routes inter-villages sont ouvertes et circulables, je pense qu'il va y avoir une émulation. En tout cas, les fruits qui sont produits dans ces terroirs-là ne vont pas pourrir pendant qu'on en a besoin à Tombouctou ou à Gao. Voilà, je m'arrête là pour le moment.
Merci Nkyo. Moi, je vais rebondir sur certaines choses que tu as dites et qui ont été aussi évoquées par d'autres à propos de la terre. Moi, je me suis trouvé à Sikasso, donc tout jeune, avec la volonté au cœur d'aider au passage à la liberté, mais disons, encastré dans une administration qui résonnait encore selon le vieux temps. Et alors, moi, à Sikasso, j'étais l'adjoint du commandant de cercle, qu'on appelait le grand commandant, et moi, j'étais le petit commandant. Bon. Et alors, quand j'étais au chef-lieu, eh bien, effectivement, il fallait respecter les règles administratives, mais comme mon vieux commandant était fatigué, il disait qu'il me concédait la brousse. Donc, quand il y avait des problèmes hors de Sikasso, et hors du village, enfin, de la ville, donc, moi, je prenais la voiture ou plus souvent le cheval et puis j'allais dans les villages. Et là, je découvrais un pays vraiment en profondeur avec la chance aussi de pouvoir parler avec les gens dans leur langue et tout ça. Et vraiment, j'avais un autre statut. Alors là, je vous raconte deux anecdotes qui illustrent ça sur la perception, disons, de l'administration, du pouvoir d'en haut par rapport aux gens d'en bas. J'étais très, très passionné par la sculpture. Il y avait des grands sculpteurs à Sikasso qui étaient complètement inconnus des collectionneurs et des musées. Et moi, je voyais quelques-uns des objets faits par eux. C'était magnifique. Des objets qui servaient au culte, qui servaient à tous ces rituels qu'on vient d'évoquer là. Et peut-être le plus grand d'entre eux, qui s'appelait Fangambalo, il habitait dans un tout petit village et il me disait... il faut que tu viennes dans mon village, je te montrerai tous mes frères, mes jeunes et tout ça. Bon. Puis j'avais jamais le temps d'aller dans ce village qui était très très éloigné. Et je le regrettais amèrement. Puis un soir, j'étais en train de dîner chez moi, au chef-lieu, avec ma femme. Et puis le cuisinier vient nous dire, voilà, il y a un vieux sous l'arbre qui est dans la cour, qui est avec un sac sur le dos et qui voudrait... te rencontrer. Je le fais venir, c'était mon grand sculpteur. Alors, on se salue, ça prend tout le temps qu'il faut pour se saluer correctement. Et puis, alors je lui dis, mais comment ça se fait que tu viens si tard? Il devait être 10h du soir. Il me dit, non, mais tu m'as dit que tu venais dans mon village, tu viens jamais, alors moi je viens. Et puis je t'ai apporté des choses. Et de son sac, il sort trois masques magnifiques. Deux statuettes, il me dit, tu vois, voilà ce que nous faisons, et il m'explique tout ce à quoi ça servait. Bon. J'étais vraiment très, très fasciné, et puis en même temps ému qu'il ait ce geste, là, à mon égard. Puis je lui dis, mais quand même, la nuit, ton village est loin. Comment tu es venu la nuit ici et tu vas retourner dans ton village? Il me dit, écoute, ta question n'a pas de sens. Tu es insensé de me poser cette question. Le bois dont nous faisons ces masques, est absolument interdit de couper par le service des eaux et forêts. Donc, si j'avais rencontré un agent des eaux et forêts de jour avec ce bois-là, j'étais tout de suite sanctionné durement. Alors, c'est pour ça que je viens la nuit. Et moi, j'étais le petit commandant. C'est à moi qui tenais ça. Ce langage-là, je l'ai remercié. Je me dis, là, ce jour-là, j'étais de l'autre côté du miroir. Alors, Deux autres illustrations de ce temps-là aussi, où j'ai appris beaucoup de choses. L'islam se répandait dans la région depuis déjà pas mal de temps, mais d'une manière très, très particulière. Beaucoup de gens acceptaient l'islam. Il y avait des jeunes qui allaient travailler en Côte d'Ivoire et tout ça, bon, qui revenaient après. Et puis, alors je me souviens un jour, j'étais dans un village. Et puis, je discute de religion avec les gens. Et puis, les gens du village me disent, oui, c'est vrai que le gros du village est devenu musulman. Mais ne te fais pas de soucis, rien ne sera changé sur le fond. Ah bon? Parce qu'on a fait une assemblée du village avec toutes les familles. Et on a dit, voilà, il y a les cultes des ancêtres, il y a les cultes de fécondité, tout ça, on ne peut pas abandonner ça. Mais maintenant, comme on est, on va se convertir à l'islam, on va désigner une famille pour garder tout ça. Et ils ont désigné une famille qui garde tous les cultes. Et cette famille-là va faire tous les rites au nom de toute la communauté, y compris de ceux qui étaient passés à l'islam. Ce qui prouvait bien aussi, disons, que la terre n'était pas une propriété privative et individuelle. Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant et même intelligent. Troisième histoire qui va dans le même genre, dans le même sens et qui me touche moi personnellement. Un jour à Sikasso, une nouvelle nous vient. Il y a deux villages là dans le nord du Ségédougou. Ils sont en train de se battre. On a sorti les fusils. Les chasseurs sont très fâchés et tout ça. Parce qu'il y a un litige sur une récolte qui est prétendument semée par un village et l'autre la revendique. Il faut y aller avant que ça tourne mal. Bon, j'y vais. Je prends mon cheval. Je fais 50 km pour aller jusqu'à dans ce village profond là. Et puis j'arrive. Et alors, j'étais en même temps administrateur et officier de police judiciaire. J'écoute les gens. Je me dis, je vais faire mon travail de juge d'instruction pour connaître la vérité et puis vraiment faire que la vérité soit juste. Je convoque les tenants de la première théorie, la première position. Et ils me disent, voilà, ce terrain a été occupé, le chef de terre nous l'a concédé depuis longtemps, on a cultivé notre mille là-dessus, et puis vraiment, c'est nous qui avons semé. Ah bon? Ah oui, c'est clair. Et ils donnent des tas de circonstances, c'était complètement convaincu. Bon, alors je me dis, ça y est, l'affaire va être réglée rapidement. Mais je vais écouter les autres, ils me donnent leur version. Et ils me disent, voilà, depuis toujours, on a semé dans cet endroit-là. Et ils avaient des arguments absolument symétriques par rapport au premier hein, et qui étaient largement aussi convaincants. Et me voilà embarrassé, hein, comme un âne qui a deux tas de foin, il ne sait pas vers lequel aller. Hein. Et alors, j'étais là embarrassé et puis il y a un vieux qui vient me dire, il me dit, bon, tu as fait le début du travail, maintenant laisse-nous faire la suite du travail. Il me dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on appelle le Nia? J'ai dit, bah, oui, bien sûr, le Nia, je savais ce que c'était. Bah, c'est un génie qui joue un rôle pour chasser la malhonnêteté dans le village et tout ça. Bon, on va appeler le Nia et le Nia va être plus puissant que toi, il va nous aider. Bon, alors, on fait tout le rituel pour sortir le Nia, on le sort de sa case habituelle, tout ça, avec tout ce qu'il faut, tout le rituel. On va sous l'arbre, on sort le Nia, on l'installe là, tout ça, puis, alors il me dit, bon, maintenant, chacun des partis va venir jurer devant le Nia. Alors j'étais là et il me dit, il faut que tu écoutes ça, hein, parce que il faut que tu sois d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bon, j'écoute. Et le premier groupe vient avec le chef du groupe en tête et je l'entends prononcer le serment. Et il dit, à haute et intelligible voix devant la communauté rassemblée, si le mille qui a poussé sur ce terrain n'a pas été semé par moi et par les miens, que ce mille me tue et que le Nia me tue. Bon, alors, j'écoute ça, je me dis, bon, ça y est, l'affaire est réglée, quoi. Hein, bon, et il a pris tous les risques. Très bien, silence dans les rangs. On appelle le deuxième. Il dit, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Et j'entends le discours suivant. Si ce mille n'a pas été semé par les miens, que le Nia me tue. Je reste à nouveau comme l'âne entre les deux morceaux de foin. Et puis, à ce moment-là, alors un apaisement complet. Tous les colibets, toutes les discussions qu'il y avait avant, tout ça s'arrête. Une atmosphère de sérénité. Il dit, ça y est, ben, c'est bien. Tu as bien fait le travail. Nous avons bien fait le travail. Tu peux rentrer. L'affaire est réglée. Bon. Alors, je comprenais rien. Il me dit, tu vas comprendre bientôt. Mais rentre. Je rentre. Et puis, bon, effectivement, il n'y avait plus du tout d'incident dans les villages. Et puis, deux mois après, un émissaire vient me voir, il me dit, bon, tu peux revenir, là, ça y est, l'affaire est réglée. C'est un tel qui avait tort et l'autre qui avait raison. Ah bon? Comment vous avez fait? Oh, il dit, tu sais, chez nous, c'est très facile. Quand les gens ont fait deux serments comme ça sur la terre et sur le Nia, il y en a certainement un qui a menti et l'autre qui n'a pas menti. Alors, à partir de ce moment, on a coupé le mille en deux parties, on a donné la moitié à chacun. Et puis, on va voir celui qui va manger sa moitié. Et en fait, on a su que secrètement, l'un des deux avait appelé un marchand d'Oula pour le faire échanger contre un mille venu d'ailleurs. Et comme tout se sait au village, eh bien, on a su que c'est lui qui avait tort. Et là, alors, effectivement, l'affaire était réglée. Et alors là, je me suis dit, bon, là, j'étais aussi de l'autre côté du miroir. Et puis, et les gens étaient très contents, on s'entendait très bien comme ça. Mais il y a eu un problème qui était quand même très grave, qui n'était pas réglé par ce simple serment. C'est que dans un des villages, il y avait des forgerons et dans l'autre, il n'y avait pas de forgerons. Et les forgerons desservaient, répondaient aux besoins de tout ce terroir. Et quand la bagarre était venue, les forgerons avaient fait le serment de ne jamais toucher à un instrument agricole pour les traîtres du village d'à côté. Et une fois l'affaire réglée, eh bien, le serment des forgerons tenait toujours. Et alors les autres essayaient d'aller dans des forgerons à 50 km, 100 km, dans tout le monde des forgerons, on était au courant de ça. Et ils ne trouvaient pas un forgeron à des centaines de kilomètres qui pouvait toucher un instrument agricole pour eux. Et là, il a fallu renégocier. Alors là encore, c'était l'affaire des anciens. Il a fallu faire un sacrifice, tuer trois moutons, etc. Et puis, on a tué les moutons, on a fait des choses, et la colère des forgerons s'est apaisée, et tout est entré dans l'ordre. Et je me suis dit, voilà une manière de gérer les affaires de l'État, qui n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, j'ai appris des choses comme ça, vraiment. Mais j'enchaînerai sur ce que disait, ce qu'on disait tout à l'heure sur les funérailles. Là. Je crois que la vie et la mort, c'est aussi quelque chose qui m'ont fait beaucoup réfléchir quand j'ai vécu avec ces gens. Finalement, la vie et la mort, pour ces hommes-là, ces humains-là, ben, c'est une chose qui n'est pas effrayante, mais la mort fait partie de la vie fait partie de la mort. Et il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut prendre le risque de prétendre qu'il ou elle ne va jamais mourir. Et il y a d'ailleurs un vieux qui me donnait souvent un proverbe qui disait « Surtout ne te prends pas pour un petit bout de viande imputrescible. » Il est inscrit ça dans la tête. Hein? Oui, oui.
Ça, c'est joli.
Voilà, il le disait en duale canaille, el que es bonito li balie. Voilà. Oui, ça, il y avait des fêtes, parce que quand quelqu'un meurt après avoir accompli sa vie normalement, eh bien, il a apporté à la société tout son potentiel humain, et c'est un objet de réjouissance. Et donc, le but de la vie humaine, c'est aussi de produire des signes humainement signifiants et de les transmettre. Et tout ce qu'on voit comme balafon, comme fête, comme danse et tout ça, c'est-à-dire vraiment notre vieux ou notre vieille a apporté ça, et il va le transmettre, et nous, on va faire la même chose. Et la vie va continuer comme ça. Alors ça, je crois qu'il y a une grande leçon là, dans les sociétés que nous sommes, où nous vivons, qui sont des sociétés effrayées par la mort. Effrayé par la mort et qu'on essaie de gommer avec des pompes qu'on prétend funèbres, enfin des tas de choses comme ça. Alors que là, vraiment, il y a du sens. Ceux qui ont vu des bouts de films, enfin, il y avait des passages là-dedans aussi dans le film qu'on a vu ce matin, les jeunes sont présents aux funérailles. Les jeunes sont présents, les balafons sont présents aux funérailles et tout ça. Et vraiment, le vieux ou la vieille retourne dans la terre, mais qu'est-ce que c'est que la terre? La terre n'est pas quelque chose d'extérieur à l'humain. La terre, c'est quelque chose de vivant qui nous fait vivre. Donc, quand on va dans la terre, on ne va pas, disons, vers le néant. On participe vraiment à ce qui nous fait vivre, et qui nous porte et qui nous portera demain. Là, il y a vraiment, je dirais, des leçons de vie. Alors, bien sûr, il y a des médiations symboliques. Il faut prendre les choses par les symboles, pas seulement au pied de la lettre. Mais c'est des sociétés qui savent aussi formidablement se nourrir de symboles, chose que nous ne savons plus, nous, vraiment. Et enfin, moi qui ai pas mal travaillé sur la littérature orale, je dis, on est passé, nous, ici en Europe, d'une civilisation du proverbe à une société du slogan. On vous dit pas, voilà, on vous donne pas une leçon de sagesse, on vous dit ce qu'il faut faire. Telle chose, lave plus blanc. Voilà, lave plus blanc, c'est tout. Et il faut faire ça, c'est une injonction. Mais la charge humaine qui est derrière... Alors, pour rebondir, je voudrais interroger un peu Marie, qui a aussi connu, disons, l'initiation dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose d'absolument fabuleux, parce que dans l'initiation, il y a des leçons de vie, là. Et à la fois, c'est une manière aussi de forger des hommes et des femmes. Il y a l'initiation des garçons, il y a l'initiation des filles. Et peut-être que ce serait bien que tu nous dises en quelques mots comment ça se bâtit dans l'univers que tu as vécu, Marie.
Alors, à la fois, c'est un petit peu complexe parce que, comme vous savez, il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. On est toujours sous cette...
je t'interromps tout de suite parce que sur ce point précis, là, moi, j'ai vécu aussi dans un pays à initiation et je discutais beaucoup avec les vieux sur l'initiation. Hein. Et puis en même temps, je leur disais, moi, je ne suis pas venu pour voler des secrets. Alors, ils me regardaient et disaient non, mais tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu as besoin de savoir pourquoi les choses. Alors, on va te raconter. Mais quand on te raconte, c'est comme quand tu manges une mangue. Tu manges la chair. Et puis, quand tu approches du noyau, on te dit, attention, là, tu n'iras pas mordre dans le noyau. On va te prévenir. Mais tout de la chair, on va t'expliquer.
Par rapport au poro, quand même, ce qui est connu, quoi. Et dans mon village, là, c'est très fort. Bon, j'ai assisté à trois moments très distincts. Le premier, c'est parce que c'est tous les 7 ans. Donc, les jeunes garçons sont envoyés dans le bois sacré pendant 3 mois. Et on les initie. Et c'est drôle parce que le village est comme dans un état de gestation. C'est comme la femme enceinte, quand elle est enceinte en Irafolo, on dit qu'elle a honte. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas montrer sa grossesse. Donc elle retient ses émotions, au contraire d'ici d'ailleurs, où dès qu'on est enceinte, ça y est, on valorise énormément ce moment. La femme enceinte est plutôt discrète. Déjà pour ne pas s'attirer peut-être la malveillance supposée de l'entourage, mais aussi parce que cet état est un état particulier où on est suspendu entre plusieurs choses et du coup on est discret. Je dirais le village pendant le poro est comme une femme enceinte. C'est cet état de retenue des émotions. On ne peut pas allumer un poste de radio, nous qui avons tellement écouté RFI là, dans les villages, on n'a pas beaucoup de distractions. Là on ne peut pas. Même si un parent décède, on n'a pas forcément le droit de pleurer un mort comme on pourrait le faire en dehors du moment du poro. Il y a ça, c'est le moment de la retraite. Donc il y a un moment d'attente. Et au mois de mars, vers la fin du mois de mars, là, il y a ce qu'on appelle tieyerege, c'est-à-dire ressortir de l'initiation. Et c'est le moment où les initiés sortent du bois. Et là, c'est vrai qu'on se rend pieds nus. À ce moment-là, on enlève les chaussures et on se rend tous pieds nus dans l'enclos du Sinzenge, le bois sacré. Et on voit vraiment, là, c'est quand même quelque chose qui est permis de voir ces initiés qui sont dans leur parure et qui créent aussi un effet esthétique. Hein. Les jeunes filles sont vraiment... en gros, si je voulais traduire dans le langage, ils sont canons. Hein. C'est ça, hein. C'est, on les regarde. Les tiologos, comme on les appelle là-bas au nord de la Côte d'Ivoire, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont sensuels. Et ils font cette danse qui est hypnotique. Un petit peu avec leurs grands masques à miroir, là, qui sont très impressionnants. Et je trouve que ce qui est intéressant pour moi, ce à quoi j'ai accédé, parce qu'étant une femme, j'étais plus proche des femmes, forcément. Donc ce que j'ai perçu, c'est comment les femmes peuvent dire ce que finalement les théologos aussi ont traversé, dire aussi la joie d'être en vie, tout simplement, la joie d'avoir survécu, par des espèces de paroles qui sont des ellipses, en fait. Quand on dit... On nous les a donnés, on chante un chant à ce moment-là, vraiment. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Mon fils est sorti du bois, on me l'a donné, il est là. Il est là. Le sous-texte, c'est il est toujours vivant. Parce qu'on sait que pendant 3 mois, il y a des épreuves initiatiques dont on n'a pas le droit de parler aux non-initiés. Et moi, j'ai une position un peu particulière parce que dans les derniers temps du poro, donc mon dernier poro, c'était en 2013. Et je dois dire que moi-même, j'ai vécu le poro en allant en Côte d'Ivoire puisque... On a été attaqué par des coupeurs de route juste avant le village. Donc, autre épreuve, mais il ne m'est rien arrivé, hein, miracle un peu. Et donc, du coup, je suis arrivée au village dans ce contexte-là, moi-même en me disant, mais je suis encore en vie. Et les femmes chantaient pour ces théologos, disant, ils sont là. Elles disaient même, Salon, le chef du village, il a mis au monde nos enfants aimés, nos enfants chéris. C'est-à-dire que c'était cette espèce d'idée aussi de la séparation de l'homme, à mon avis, avec le monde féminin. L'homme s'accomplit en tant qu'être. Et donc, cette idée du chef de village qui accouche d'hommes nouveaux, c'est le seuil, enfin un seuil très important de l'existence des nouveaux. Et ça, c'est quand même les femmes qui peuvent, à mon avis, le verbaliser. Et qui, en plus, tout au long de l'initiation, vont dans le bois sacré nourrir, donc... Ces jeunes initiées, en chantant, elles chantent un grand chant collectif, là, Yel solo soyo, c'est-à-dire venez prendre votre repas, et elles vont vers les initiées, c'est un moment très fort. Et j'ai vu certaines choses dont je ne peux pas parler, moi-même étant dans un poro de forgeron, j'ai aussi des récits dont je ne peux pas parler. C'est aussi tout ça, je pense qu'une société est vivante, elle nous résiste, et c'est bien. J'ai jamais cherché à dévoiler ça parce qu'à mon avis, c'est vain et puis c'est dangereux, non ? Vous parlez après sur un plan. C'est nouveau, là. On ne va pas se risquer là-dedans. Mais au-delà de ça, je pense qu'une société nous résiste. Elle est vivante. On n'est pas sur des sociétés qui sont ethnologisées comme ont pu l'être d'autres sociétés africaines, malheureusement, où on joue plus, à, entre guillemets, à être un tel qu'on l'est vraiment. Là, non, vraiment, c'est une société qui est vivante, qui a cette initiation qui est absolument forte et à la fois qui est peut-être assez ordinaire si on se replonge dans les, pour être un peu aussi dans la traduction des cultures, ce que disait tout à l'heure Solo, c'est-à-dire on a plus de ressemblances que de différences. Finalement, est-ce que le poro aussi n'est pas un peu comme le carnaval était avant ici, c'est-à-dire quand on voit ces hommes qui sont couverts de papier de cigarette, avec toute cette espèce d'inversion des valeurs qui se produit au moment du poro, pour, comme on dit, faire la joie, faire la fête, c'est aussi toute cette inversion des valeurs qui était présente il n'y a pas si longtemps, je pense, chez nous, et qui peut l'être encore. Donc c'est pour dire qu'à la fois, on est dans ce rituel qui est formidable, qui est fondateur de la personne, mais on est aussi dans un jeu ordinaire du temps social qu'on vit. Et donc, pour nous qui y accédons d'une autre manière, on s'aperçoit que c'est à la fois mystérieux, mais c'est aussi inscrit dans l'ordinaire des jours. Ce que je trouve assez fascinant aussi. Après, pour parler d'initiation féminine, c'est tout un autre... ce serait très long, je pense. Et ce qui est important, à mon avis, il y a chez la femme ces épreuves qui peuvent être extrêmement choquantes pour les Occidentaux, qui sont liées aussi aux mutilations sexuelles, etc. Mais dans la symbolique de l'initiation féminine, il y a toute cette idée de, finalement, de patience. On a beaucoup parlé des sénoufos, de l'humilité, la discrétion, mais à mon avis, il y a cette notion de la patience. Comme on dit, refroidis ton cœur pour être un homme, quoi. Et pour être une femme aussi, hein, même peut-être encore pire, mais on lui dit souvent, il faut, qu'est-ce qu'on va dire comme conseil ? Souvent, quand quelqu'un traverse une difficulté de vie, les gens s'assoient, lui adressent, comme on dit, des douces paroles, mais ces douces paroles, c'est souvent, mais refroidis ton cœur, patiente, remets-toi, comme on dit au créateur, hein, Kolo Tchelier, tout à l'heure, on disait la femme du monde. En tout cas, c'est cette idée de patience. Et quand même, l'initiation féminine peut être choquante pour les Occidentaux, et elle l'était pour moi en tant que femme, mais en tant qu'anthropologue, je n'avais pas le droit de juger. J'étais là pour comprendre, donc pour me mettre à la place d'eux. Et donc, pour d'abord être dans l'absence de jugement de valeur, pour accéder à la compréhension de l'acte, et pour après peut-être faire l'objet, ça pouvait faire l'objet d'un débat. Mais tant que la chose n'est pas comprise et qu'on est tout de suite dans un jugement de valeur extrêmement dur, évidemment, on n'accède pas au sens profond de ces initiations qui, à mon avis, vont chercher très loin dans la philosophie, dans la conception de la parole, la conception de l'être et la conception de la patience et de la maîtrise de soi. À mon avis, ce sont aussi des épreuves d'endurcissement qui nous permettent d'accéder à une forme de maîtrise de soi. Qui n'est peut-être pas vrai dans toutes les sociétés, mais moi j'ai trouvé dans cette société-là, c'est quelque chose de très fort, cette notion de maîtrise, maîtrise de la parole, connaissance de soi aussi, que permet tout un tas d'autres choses que le poro, mais peut-être particulièrement dans l'initiation, on a cette idée. D'ailleurs, si on prend même l'étymologie du terme initiation féminine, c'est « ils l'ont assise ». C'est-à-dire, comme on dit le cœur debout, on dit souvent « elle a le cœur, elle a un gros cœur, elle a le cœur debout ». Elle est énervée. Et l'initiation est censée asseoir le cœur, c'est-à-dire nous rendre posés, nous rendre maîtres de nos émotions. Mais pour en être maître, encore, il faut les connaître, quoi. Donc, ce chemin est finalement assez complexe. Je vais peut-être pas aller plus loin.
Alors, avant qu'on dialogue avec vous, bien sûr, je voudrais demander à Solo et puis aussi à Antio, disons, les points qu'ils voudraient encore éclairer avant qu'on passe aux échanges avec le public.
Okay. Je voulais rebondir sur un des éléments de Marie par rapport à comment on a, le nom, la traduction de l'état de grossesse pour dire la honte. Voyez-vous, les mots, certains mots dans nos langues, quand on les traduit littéralement en français, parfois ça correspond strictement à rien. C'est ce qui a fait traduire un des romans d'Amadou Kourouma, le monnaie. Le monnaie, cet état de violence qu'on vit de l'intérieur. Pour trouver, le traduire en français, il a dû utiliser deux mots. Monnaie, c'est le défi, l'outrage. Quand quelqu'un est habité par le monnaie, s'il est dans un état où il est capable de tuer. Et il n'y a pas un mot pour le traduire. Il paraît le mot, la grossesse, c'est la honte, mais ça ne veut pas dire la, plus de la pudeur. Effectivement, dans cet état-là, la société a, on va dire, comment dire, installé un cadre, un carcan, pour que la femme puisse dominer ses sentiments, son émotion, que ce soit la femme ou l'homme. Parce qu'en société, tout ce qui est fait sous le coup de l'émotion n'est pas forcément juste. Que ce soit une décision qu'on va prendre ou un mot qu'on va sortir, tout ce qui est ému par l'émotion violente, ça peut être violent, ça peut faire mal, ça peut contrarier, ça peut... Donc, on a dans nos sociétés des carcans, des éléments installés, des conditionnements psychologiques pour dominer nos émotions, nos sentiments, quelle que soit la situation. Hier soir encore, j'en discutais avec une collègue. Vous voyez, moi, ça fait 12 ans que je vis en exil et je n'ai jamais remis le pied dans mon village, je n'ai pas revu ma mère. Elle me dit, mais comment tu fais pour traverser tout ça? Et je rigole, je dis, mais ma fille, quand elle est partie à l'étranger, ça fait 9 mois, et 9 ans qu'on ne l'a pas vue. Comment vous avez fait? Quand tu vois les Européens dans leur rapport avec les enfants, dès qu'on ne l'a pas vu un an, oh ma chérie, oh mon chéri, ah, tu nous as manqué, Seigneur, comment va-t-on? Enfin bref, je caricature un peu pour me moquer, mais je pense, et je n'ai pas pu dire à ma collègue quel mécanisme je mets en route pour dominer ces moments durs, difficiles, pour les traverser. Mais c'est maintenant, je me rends compte que c'est la formation de ce cadre culturel où on t'apprend à, ben, quand il y a un manque, quand il y a une privation, et quand même il y a douleur, comment te conditionner déjà psychologiquement depuis le berceau à dominer ce genre de situation pour les traverser. C'était pour rebondir sur le cas de comment on appelle, de la grossesse et la traduction du mot honte. Et que pendant la période du tchologo, donc de cette phase de la formation de l'individu qui passe de l'âge de la la minorité à la majorité, cet âge charnier où l'individu doit être formé et qui doit passer par l'initiation. Pendant 3 mois, et on vous dit, si quelqu'un décède dans votre famille, vous n'avez pas le droit de le pleurer. Ça participe aussi de toutes ces mises en place, de la domination des sentiments, des émotions, des situations dramatiques, parce qu'on estime qu'on met en balance ces jeunes qui sont dans le bois sacré, où tout peut arriver, où on peut perdre la vie, je terminerai rapidement là-dessus, s'il y a même la mort d'un être humain, qui pour nous, on n'a pas le même rapport avec la mort, c'est juste le passage d'une vie à l'autre. Les Camerounais vous diront, il est passé de l'autre côté de la rivière, sur l'autre berge. Les Sénéfaux vont vous dire, il est parti, les Indiens vont vous dire, il est parti au pays des chasses éternelles. Il n'y a jamais une mort définitive. Et puis, dans notre spiritualité, la notion du bien et du mal existe, mais dans l'au-delà, il n'y a pas la notion de l'enfer et du paradis. À la limite, on vous dit, si vous, vous ne posez pas des actes positifs par rapport à votre société, vous aurez des terres moins fertiles à cultiver dans l'au-delà. Les ancêtres ne vont pas vous réserver le meilleur accueil. Mais il n'y a pas la notion, on va vous brûler comme la culture judéo-chrétienne vous l'enseigne à vous. Donc nous, on n'a pas cette peur là de ce taux-là. Et c'est pour ça que le rituel des funérailles, quand on a vu les Européens qui sont débarqués dans nos villages, ils ont appelé ça des fêtes. Nous, on disait, non, ce n'est pas une fête, c'est un funérailles. Je dis, mais ça a tout l'air d'une fête. On joue la musique, on rigole, on boit le chapalo, la bière des mille. C'est la fête au village. Et même pour quelqu'un qui a la chance d'avoir des petits-enfants, le jour où moi je meurs, mon petit-fils et ma petite-fille, ils vont porter mes vêtements. Et comme ils ont observé certains de mes tics, certains de mes vilenies, de mes travers, et pendant tout le long des funérailles, mes enfants directs, eux, vont me pleurer parce qu'ils sont directement liés à moi. Mes petits-enfants sont un peu plus loin de moi et vont s'habiller comme moi, comme leur grand-père, et vont jouer ces tics, mes tics dans le village pendant les funérailles. Ils disent, oh, vous pleurez ces gars-là? Oh, c'est un connard! Mais il s'assied à la radio, il racontait tout et n'importe quoi. Et c'est sur là que vous pleurez. Pour détraumatiser la mort. Vous voyez, dans l'organisation sociale, il y a toujours la mise en place, tout ce qui est lié à la douleur, au mal-être, il y a des cadres qui sont organisés pour réduire la détresse à sa plus petite expression. Et c'est ça qu'aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui a eu la chance d'avoir aussi cette double formation, la cartésienne occidentale et les éléments incartésiens, si on peut les appeler ainsi, de ma culture sénoufo, aujourd'hui, ça m'aide à vivre. Et même ça m'aide à la prise de parole pour au mieux traduire sa pensée par la métaphore qui est dans l'essentiel, comme disait Marie. La présence du proverbe dans l'éducation, dans la communication, est d'une importance incroyable. Pour être un maître de la parole, il faut savoir faire usage des images et de la métaphore. Et dans le théologo, pour terminer là-dessus, si on vous dit aux Français de Kaja, oui, on rentre dans le théologo, on ne sait pas si on va revenir vivant ou pas. Vous êtes capable de nous dire, mais c'est les sanguinaires, on les tue là-dedans ou quoi? Mais c'est juste que on est quand même dans des sociétés où il y avait des guerres ethniques entre les gens. Donc l'initié, le jeune qui va rentrer dans le bois sacré, qu'on va former pour être un homme, lui, pendant les 7 années lunaires que va durer son statut d'initié, avant que la relève n'arrive, et pendant ces 7 années lunaires, il est au service de la société. L'initié est fait le sapeur-pompier. Quand il y a un village en feu, ce sont les initiés qui sont au front, en première ligne, pour éteindre le feu. S'il y a un monsieur, un être humain qui est en soin dans un autre village, un guérisseur qui meurt, qui va aller le chercher dans ce village pour venir dans son village pour l'enterrement, ce sont les initiés. Ce sont les initiés qui font, qui creusent le tombeau. S'il y a une bataille avec une tribu adverse, ce sont les initiés qui sont au front. Donc, pendant l'initiation, c'est comme les dieux américains. C'est une formation ardue, l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau, l'épreuve de l'endurance, de la torture, pour voir comment tu résistes pour ne pas livrer le secret du village à l'adversaire. Et donc, certains qui sont un peu fragiles, ils peuvent mourir là-dedans. Quand il y avait le service militaire ici, c'était comme ça. Ce n'est pas pour applaudir ça des quatre mains, mais c'est pour comprendre l'organisation d'une société avec les éléments qui régulaient cette société. Qui fait que, donc, tes enfants qui allaient à l'initiation, toutes les mamans avaient les cœurs, ça battait violemment parce qu'on avait pas la certitude que tout le monde reviendrait vivant. Et donc, quand ils reviendraient, c'est les chants que, comme ceux que Marie a enregistrés, qu'on entendait, ils nous l'ont rendu, notre fils bien-aimé. La forêt nous l'a rendu. Et on pourrait passer des heures là-dessus. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Marie et pour donner la parole à Théo. Et ensuite, vous poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
Merci. C'est bon? Oui, brièvement, à propos...